Bon, du coup, l'idée c'était peut-être de vous laisser entamer le, la discussion.
Ouais, du coup, on va. Donc, en fait, on a préparé une petite discussion avec Charlie à partir du texte que nous avait envoyé Jean et puis de discussions qu'on a pu avoir depuis quelques mois qu'on s'est rencontrés. On va prendre une dizaine de minutes, pas plus, peut-être un quart d'heure, grand max. Et puis on va tout balancer d'un bloc en fait. Ça va être un peu dense en termes de questions, il y aura plein de choses. En tout cas, on a essayé de penser à la fois des questions pour toi, Jean, directement par rapport à ce que nous inspirait ton texte et la démarche de l'ethnocafé, mais aussi de manière plus générale en fait pour toutes les personnes qui participent à ces réunions de réfléchir ensemble. Alors, du coup, pour commencer, on voulait partir en fait de la lecture du texte que tu nous as envoyé, Jean, et du coup que tu as parcouru ce matin. Donc c'est un texte en fait très dense, très théorique, avec de nombreuses références à des auteurs issus de disciplines différentes. Tu as cité à la fois des philosophes, des anthropologues, des sociologues, mais aussi et surtout peut-être, et c'est de là dont tu as pu venir notre surprise, des auteurs qui s'inscrivent dans des approches théoriques en fait ou épistémologiques assez différentes et qui sous plusieurs aspects ont pu nous sembler irréconciliables à certains moments, et du coup là de les voir ensemble ça nous a questionné et on pourrait en discuter, mais du coup le texte était très théorique et nous pour aborder la question de la méthodologie en fait on avait besoin de terrain en fait en quelque sorte, hein. C'était une des questions que tu as posées, où commence le terrain. Du coup on avait besoin de terrain et on a préféré ouvrir la discussion du coup sur la méthodologie mouvementée et sur l'enquête ethnographique que tu as un peu mentionné. Et déjà peut-être une première question, vu qu'il y a ces deux termes qui arrivent, une première question ça serait déjà de se dire, est-ce que la méthodologie mouvementée tu le conçois comme une forme d'enquête ethnographique? Et inversement, est-ce que l'enquête ethnographique est une forme de méthodologie mouvementée, et de la mettre chacun en mettant ce qu'on veut derrière méthodologie mouvementée? Donc la multiplicité des auteurs que tu as cités dans le texte et ce matin, en fait, nous semble en fait faire écho à la multiplicité des places que tu occupes, à la fois en tant que médecin, en tant qu'anthropologue, en tant qu'éditeur, dans un lieu qui est lui aussi multiple en fait, cabinet médical, institut de recherche, librairie un petit peu, café. Enfin moi c'est la première fois que je viens, du coup je suis assez frappé par ce lieu très atypique où on voit à la fois, enfin j'ai une porte en face de moi avec d'un côté médecin Jean Fayette, de l'autre l'ethnocafé avec plein d'informations. Et du coup cette multiplicité là, en fait, ça nous pose la question, c'est un peu le premier temps que je vais aborder, Charlie en abordera un second, c'est la question des places en fait, qui nous semble importante. Charlie reviendra aussi sur cette question, mais au prisme de l'écriture et de la description. Et du coup, en fait, cette diversité des places pose inévitablement en fait la question des circulations et renvoie donc à une première acception potentielle de la méthodologie mouvementée. Une méthodologie des mouvements, des déplacements d'une place à une autre, de rôles endossés ou de rôles assignés à un autre, dans de multiples lieux ou dans un lieu qui serait multiple. Et cette question des places, centrale dans toute enquête de terrain, et là je renvoie aux travaux notamment de Jeanne Favre-Saada en anthropologie, qui a vraiment mis en avant en fait tous ces jeux de place et les places auxquelles l'enquêtrice en l'occurrence pouvait être assignée, et pleinement soulevée en fait dans le préambule de ton ouvrage Le merveilleux cancer de Geneviève C, qui va me servir en fait je vais piocher en fait deux exemples pour ouvrir la discussion. Donc page 15, en fait, tu écris ceci, donc c'est le préambule, vraiment c'est le tout début de l'ouvrage. Je te cite, elle commence donc cette histoire, un jour à mon cabinet, je reçois une de mes patientes, Bernadette C. En fin de consultation, elle me confie, deux points, je cite, vous savez docteur, ma sœur Geneviève, de 10 ans ma cadette, vient d'apprendre qu'elle a un cancer du péritoine très grave. Eh bien, c'est incroyable, elle qui est très renfermée et dépressive, se retrouve métamorphosée par cette annonce. Elle est curieuse de tout, s'intéresse à tout. C'est vraiment très étonnant. Cet échange, en fait, constitue le point de départ de ta rencontre avec Geneviève, avec qui tu vas mener 3 entretiens que tu restitues dans cet ouvrage. Mais la première question que je me pose en lisant notamment ce préambule, c'est en fait à quel moment débute l'enquête ? Est-ce que l'enquête commence au moment où tu entends parler de Geneviève, ou avant, quand Bernadette apprend que tu es anthropologue, si tant est qu'elle sache que tu es anthropologue lors de cette consultation ? Quand elle t'interpelle par la formule « vous savez docteur », à qui s'adresse-t-elle en fait ? Au médecin, comme sa sollicitation peut le laisser penser, à l'anthropologue ou au médecin anthropologue ? Et en fait, ce cas concret ouvre alors sur une question plus large, qui est celle en fait de ce lieu. Est-ce que le cabinet médical est aussi un lieu d'enquête ethnographique ? C'était intéressant ce matin, parce que tu parlais de cas cliniques en faisant 2 citations, et en même temps tu disais « c'est des cas cliniques, mais c'est peut-être aussi des cas ethnographiques ». Du coup, on est dans cet entre-deux, et c'est un peu cette question-là que je souhaite poser. Et par prolongement, alors je sais pas s'il y a des patients, patientes de gens ici, mais la question s'adresse aussi aux potentiels patients. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée de se soigner et d'être soigné en fait dans un lieu qui est un lieu d'enquête anthropologique, puisque c'est beaucoup revenu ce matin quand tu parles des patients pénibles, et la discussion qui a eu était intéressante, c'était de se dire en fait, est-ce que tu réagis à ces patients pénibles en tant que médecin en prenant du temps, tout ça, ou est-ce que c'est l'anthropologue qui prend du temps? Pour moi, il y avait quelque chose là un petit peu de flou et qui m'interroge. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait d'être soigné ou de soigner dans un lieu qui est un lieu d'enquête anthropologique et ethnographique? Et inversement, qu'est-ce que ça crée d'enquêter dans un lieu qui est aussi un lieu de soin? Qu'est-ce que ça fait à l'enquête, qu'est-ce que ça fait à l'ethnographie d'être dans un cabinet médical? Un deuxième élément dans cette question des places, et après je laisserai la place justement à Charlie. Je vais reprendre aussi dans le merveilleux cancer de Geneviève C. Alors cette fois un petit peu plus loin, page 46. Alors il y a quelque chose de très intéressant, je sais pas si pour celles et ceux qui n'ont pas forcément lu le livre, en fait, du coup, on est sur quelque chose de... Les entretiens sont retranscrits, il y a un travail sur les entretiens, mais c'est vraiment la parole de Geneviève qui est restituée. Et puis il y a aussi cette démarche en fait qui est la tienne, les questions que tu te poses durant ces entretiens, entre ces entretiens. Et il y a notamment des retranscriptions d'échanges mails que tu as pu avoir avec des collègues pour échanger autour de cette situation. Et page 46, dans un de ces échanges mails, tu écris « Je suis ici dans un travail de recherche, mon travail d'anthropologue. Je ne suis pas avec elle dans une relation thérapeutique. Je n'ai d'ailleurs jamais été son médecin. » Et du coup, ce passage-là, il m'interroge aussi toujours sur cette question des places, en fait. Ici, dans ce que... Vraiment, si on reste juste sur cet extrait, avec Geneviève, il semble y avoir une distinction très nette, en fait, entre ton travail de médecin et ton travail d'anthropologue. Hein, tu n'es pas dans une relation thérapeutique, tu n'as jamais été son médecin, tu es dans ton travail d'anthropologue. Mais en même temps, on peut se poser la question, en fait. Est-ce que le temps passé à échanger et à écouter comme le fait l'anthropologue ne possède pas une qualité soignante, qui a d'ailleurs été évoquée ce matin en prenant du temps, et qui vient en fait brouiller les frontières entre la relation thérapeutique et la relation anthropologique? Et justement, toujours de travailler, en fait, t'es qui à ce moment-là, en fait, entre médecin, anthropologue et les deux? Et de manière plus générale, en fait, en quoi cette pratique de médecin recouvre ta pratique d'anthropologue et inversement? Enfin, c'est très intéressant, mais en même temps, ça questionne énormément quand tu dis que tu reçois un patient et que du coup, tu vas enregistrer la situation. En fait, tu l'enregistres au nom de quoi et en tant que qui? En tant que médecin qui a besoin d'éléments, de se poser sur la situation pour la reprendre, ou en tant qu'anthropologue qui est toujours avec son dictaphone et qu'il sort dès qu'il peut pour retranscrire des conversations. Et donc, la question qui suit, en fait, c'est à partir de quel moment les patients deviennent des enquêtés et les enquêtés deviennent des patients. Comme Geneviève, qui n'est a priori pas ta patiente, mais qui est une enquêtée, à quel moment elle peut devenir une patiente parce que tu vas lui accorder du temps, tu vas prendre le temps de discuter avec elle. Donc, en fait, je terminerai là-dessus, hein, je voulais vraiment pas faire long, et puis Charlie va rajouter des choses, mais en fait, existe-t-il seulement des moments où tu es que médecin ou que anthropologue, en fait? Est-ce que c'est même possible de qualifier ça? Mais plutôt, ce qui m'intéresse, c'est, et je pense qu'il y a intéressant pour l'ethnocafé, vu la démarche que tu as présentée ce matin, c'est un petit peu ce flou, et puis peut-être qu'on parlera du pragmatisme, mais du coup c'est aussi ces situations de trouble où on ne sait pas trop de quel côté on est, qui vont être riches, en fait, au sens où elles vont être riches d'enseignement, mais aussi riches parce qu'elles vont être moteurs dans une démarche d'enquête ou de réflexion pour comprendre ce qui se passe. Voilà, je laisse juste là, je ne vais pas plus loin et je laisse la parole à Charles.
Peut-être que beaucoup de médecins sont anthropologues sans savoir.
C'est la question qui est implicite, je suis complètement d'accord.
Moi j'avais un collègue, un associé d'ailleurs, avec un autre objectif, il enregistrait les patients, mais il leur demandait s'ils étaient d'accord pour faire des recherches avec une idée effectivement de s'améliorer dans un groupe dont il s'est parti. Il enregistrait les patients.
Ouais. Et inversement, en fait, nous, enfin, je parle pas au nom de tous les sociologues, mais l'expérience d'enquête de terrain, c'est aussi beaucoup de gens qui nous disent merci en fait d'avoir pris du temps avec nous, en fait, et ça nous a fait du bien et tout ça. Du coup, est-ce que on n'est pas médecin, nous? Enfin, je n'irai pas jusque là, mais voilà. Du coup, enfin voilà, dans cette dans ce mouvement là en tout cas.
Je m'excuse, je vais le dire un peu parce que je suis toujours un peu stressé pour ça.
C'est pire qu'à la fac ?
Non, mais c'est ma manière d'accueillir ce type de... Bref. Alors, toujours sur la question des places, en fait, ou au sujet des témoignages des places que Jean occupe et que ce lieu témoigne, du coup, je me demandais, sans se demander, en fait, si c'était... On pouvait parler de superposition ou d'alternance de places que tu occupes entre deux mondes, d'un côté celui de la médecine, de l'autre de la recherche en sciences sociales. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une alternance, une superposition, ou bien c'est une composition dont au fond il serait difficile de déterminer qui de l'œuf ou la poule est le premier? Ce qui rejoint en fait ta question. Alors sans doute, ici on revient sur l'idée suggérée par Jean sur la question des perspectives. Perspectives sur des perspectives, peut-être. Question qui en soulève une autre et qui concerne celle des disciplines. On perçoit à travers ton travail l'idée finalement de subvertir les découpages disciplinaires. On pourrait dire que ton travail, ta posture et l'ethnocafé plus largement n'est pas multidiscipliné, n'est pas non plus pluridisciplinaire ou pluridiscipliné, mais bien indiscipliné. Indiscipliné n'est pas à comprendre au sens d'une visée normative, au regard par exemple de pratiques médicales d'un côté et de la recherche en sciences sociales de l'autre, mais au sens plutôt des potentialités que recouvre cette idée d'indisciplinarité ou cette manière d'être indiscipliné. Je pense notamment ici, ce que disait Gabriel, aux travaux d'une anthropologue qui s'appelle Jeanne Fabré-Saada. Pour être peut-être plus explicite, c'est une anthropologue qui a travaillé sur la question de la sorcellerie dans le bocage français, en Normandie, où il y avait beaucoup d'affaires où on parlait de sorcellerie. Donc elle allait enquêter dans ce village. Elle a développé toute une pratique d'enquête qui poussait en fait l'enquêteur à être complètement en prise avec l'objet de recherche. Pour faire vite, elle s'est dit que pour comprendre la sorcellerie, il fallait accepter d'être soi-même ensorcelé. Ce qui est un renversement de perspective extrêmement fructueux. Et donc elle disait une chose, elle disait qu'il faut sortir de l'anthropologie pour en faire, et finalement on pourrait se dire, avec toi, peut-être qu'il faut sortir de la médecine pour en faire. Et donc cette façon d'être indiscipliné se traduit, me semble-t-il, par une posture anthropologique qui est la tienne, et qui s'est enracinée précisément en dehors des manuels de méthodologie, des sciences sociales par exemple, et plutôt dans une épaisseur sensible de ton activité professionnelle, c'est-à-dire en tant que médecin. Et à ce titre, par exemple, ce que tu exposais tout à l'heure, c'est que tu revendiques la prééminence de l'objet sur la discipline, c'est-à-dire que tu dis qu'il faut d'abord faire du terrain en premier. Et donc, à ce titre-là, j'aurais deux questions. Pourquoi employer le terme de méthodologie? méthodologie mouvementée. Parce que méthodologie, en fait, ça ne serait pas un terme qui revendique précisément des spécificités disciplinaires, toi qui es un indiscipliné, qui circonscrit ce qu'il est possible ou non de faire, ce qui cadre ou encore encadre une pratique. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas autant de terrain que de méthode ? Finalement. C'est-à-dire que l'objet de l'enquête devient le processus d'enquête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'objet de l'enquête va redéfinir le processus d'enquête pour chercher à comprendre ce qui se joue là. Et puis, ce qui m'amène à poursuivre autre chose, c'est-à-dire que j'aimerais m'intéresser, peut-être qu'on peut réfléchir, au passage ou aux traductions que tu opères, qui en retour te permettent de définir des nouveaux objets de recherche. Tu utilisais d'ailleurs dans ton exposé « les histoires de soins nourrissent l'anthropologie », on pourrait dire, et inversement. Et tu évoquais l'idée des patients pénibles, qui donnent de la peine, et qui, de ta posture de médecin, constituent un trouble. Trouble qui s'immisce dans la relation médicale. Et d'ailleurs, je voulais juste te dire à ce titre-là que j'aime bien l'idée de patient pénible qui donne de la peine. Parce qu'en fait, cette expression, elle n'est pas seulement normative, c'est-à-dire des patients pénibles, mais elle est tournée déjà vers la relation. Elle est tournée du côté de la réception, qui donne de la peine. Et en fait, ça me faisait penser à un philosophe qui s'appelle John Dewey, qui est un monsieur qui a initié la philosophie pragmatiste aux États-Unis. Et il disait, en fait, la manière dont on formule les problèmes, on est déjà en train de les résoudre. Et dire, c'est-à-dire quand tu dis qu'il donne de la peine, tu es déjà en train de formuler les conditions pour résoudre ce problème par rapport au patient pénible. Tu n'es pas contenté de dire que c'était seulement un patient pénible. Mais alors, il n'empêche qu'avec cette idée de patient pénible, une question centrale se pose et rejoint celle qui a été posée par Gabriel. La question, c'est qui parle ? Est-ce que c'est le médecin qui dit que c'est des patients pénibles ou est-ce que c'est l'anthropologue ? Et donc, parce que ce qu'on peut comprendre avec l'idée du patient pénible, c'est que c'est bien en tant que médecin que tu fais l'expérience d'un trouble de cette relation médicale. Et donc, on comprend à travers ça que l'anthropologie devient pour toi une ressource pour résoudre des problèmes pratiques qui se posent dans ta pratique médicale. C'est ça ? Mmh. Et donc, quel est ce geste ? Un geste particulier quand même. C'est-à-dire, en quoi l'anthropologie devient une ressource pour résoudre des problèmes pratiques en tant que médecin ? Et finalement, on pourrait se dire, n'est-ce pas dans un autre lexique, celui du travail social, par exemple ? C'est-à-dire, cette manière de faire comme si l'anthropologie, en fait, était une analyse de la pratique professionnelle, ou là, on pourrait dire, une analyse de la pratique médicale. et donc, finalement, peut-être on pourrait réfléchir à la façon dont l'anthropologie devient une médiation par rapport à des troubles que vous expérimentez en tant que professionnel, en tant que médecin, mais qui peut être, en fait, en tant que travailleur social, en tant que tout autre métier, peu importe. Comment les sciences sociales peuvent aussi être là pour une ressource pour résoudre des problèmes pratiques. Voilà, je m'arrête là.
Ok, ben merci beaucoup pour la qualité de vos interventions, pour le travail que ça demande. Bon, je vais répondre brièvement, mais après, juste une première réponse. Bon, c'est vraiment intéressant d'écouter la manière dont vous le présentez. Moi, ça m'évoque, en tant que médecin, déjà, je crois que j'ai toujours eu cette idée qu'il fallait à un moment, comment on donne la parole au patient sur le soin. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines, il y a l'idée d'une évaluation, d'évaluer les pratiques. En médecine générale, c'est pas quelque chose de présent, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas. Bon, c'est peu de médecins qui mettent un questionnaire à la sortie du cabinet, on va évaluer votre pratique, alors que c'est présent dans beaucoup d'autres champs professionnels. Moi, je crois que c'est une idée qui m'a taraudé depuis le départ. Et à un moment, au tout début, dans mon cabinet, c'était rue des Chartreux avant, j'ai mis un CV là-bas, j'avais mis en salle d'attente un petit panneau intitulé « Démocratie sanitaire », et où j'ai invité les gens à s'exprimer, à faire des commentaires sur le soin, enfin, notamment sur mon soin. Bon, il n'y a jamais eu aucun commentaire de fait, mais voilà, peut-être que ce n'était pas le bon dispositif, mais je crois qu'il y avait cette envie d'un moment de... Alors j'étais à l'époque peut-être déjà en études d'anthropologie, je sais pas si je faisais le lien, mais cette envie qu'à un moment il faut qu'il y ait une parole qui... Peut-être un autre espace de parole que l'espace de la consultation. Et après, en tant qu'anthropologue, à l'inverse, j'ai fait pour ma thèse, enfin pour mes deux travaux avant l'ethnocafé, pour mon master et pour ma thèse, j'ai fait deux terrains hors du cabinet, c'est-à-dire que le premier terrain c'était auprès des gens issus du milieu alternatif qui refusent la vaccination. Et le deuxième terrain pour ma thèse, c'était sur les médecins généralistes du quartier. Et je me suis dit, en fait, t'es dans un cabinet, t'as pas beaucoup de temps, tu te fais chier à aller ailleurs sans avoir beaucoup de temps à essayer de rencontrer les gens, mais après, il y a la question du temps. Mais enfin, est-ce que t'as pas tout ce qu'il te faut dans ton cabinet, en fait ? Et je pense que l'idée de l'être au café, c'était un peu ça aussi. c'était de dire ben, finalement ce qu'on appelle mon terrain, est-ce que enfin déjà c'est plus confort en termes de temps, je superpose les deux activités, mais surtout en termes de richesse, est-ce qu'il vaut pas mieux que tu travailles sur ton cabinet? Voilà. Et ce qui est pas aussi, j'ai l'impression que en anthropologie, il y a aussi cette notion de culture du terrain qui doit être loin. Alors les terrains nobles, c'est quand tu vas vivre en Amazonie. Mais du coup, travailler sur ta propre pratique, il y avait quelques anthropologues qui étaient intervenus. Un gars dont la mère était sorcière et qui avait fait un travail sur la sorcellerie. Peut-être que vous connaissez, je ne sais plus qui c'est, mais du coup, ça avait été vachement critiqué. Mais il travaille sur sa famille, mais c'est, il n'y a aucun recul. Enfin, c'était. Et du coup, je crois que j'avais une petite appréhension aussi, en tout cas quand j'étais étudiant, de dire que mon propre travail est mon propre terrain. Et je crois que le projet de l'ethnocafé, il y a peut-être ces deux volontés, donner un espace de parole différent. Et en même temps, reconnaître mon. Tu parlais, est-ce que la mythologie mouvementée est une. Est-ce que c'est une ethnographie? Enfin, je ne sais plus comment tu formulais les choses. Enfin, est-ce que la mythologie mouvementée est un travail d'enquête? Tu dis ça, Gabriel. Moi, je le vois vraiment comme tel. C'est-à-dire que l'ethnocafé, j'ai l'impression que c'est un. Alors, l'interrogation sur le thème de méthode est juste. Moi, je peux parler de dispositif, en fait. C'est de mettre en place une sorte de dispositif de recherche. Ou finalement, ce qui est à observer et ce qui se passe au sein de la structure. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les enregistrements. En fait, il y a des soirées. Il y a des soirées, je me dis, mais en fait, tout est là, quoi. Il y a une diversité autour de la table. On parle d'un thème. Je me dis, c'est un peu comme les entretiens de Geneviève. Tout est là, quoi. Donc, ce matériau-là, j'ai l'impression que, c'est vraiment un travail d'ethnographie. Et après, donc l'idée, c'est d'avoir, de proposer un dispositif qui est singulier. Dans l'idée que, encore une fois, c'est pas de dire qu'on est, c'est plus pertinent ou moins pertinent en termes de production de données, ça n'a pas de sens. Mais simplement la singularité du lieu, a priori, c'est un point de vue original, donc peut-être quelque chose qui va nous amener dans des endroits originaux, inexplorés. Peut-être qu'on va aborder le mystère de l'homme d'une façon. Même probablement, puisque toutes les façons d'aborder l'homme sont singulières, mais peut-être que cette singularité-là va amener à quelque chose de singulier, donc d'intéressant. Donc voilà, après, j'aime bien le terme d'indiscipline, enfin, je le cogite. Et après, c'est vrai que il y a la relation avec les patients qui est. Je pense qu'au départ, il y avait vraiment cette idée d'offrir un. Moi, je suis très intéressé par le fait que des patients viennent aux soirées. Moi, j'aborde jamais le sujet avec les patients. Je demande jamais aux patients de venir. Je n'aborde jamais le sujet. C'est toujours éventuellement les patients qui m'en parlent. Donc, ça m'intéresse qu'il y ait un endroit. Et puis, ça crée des choses avec les patients. Enfin, ça, oui, ça. De fait, c'est aussi la question. C'est que quelqu'un qui vient à une rencontre, ça change la relation thérapeutique. Du coup, il y a la question, est-ce que c'est légitime ou pas? Parce que, bon, après, c'est plus pareil. Il y a la question du vouvoiement, du tutoiement. Ici, on a tendance à se tutoyer. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise à tutoyer mes patients. Du coup, il y a des gens qui sont venus, qui se mettent à me tutoyer après. Enfin, donc, du coup, ça crée toute une sorte de bazar. Mais je trouve ça quand même vachement intéressant qu'il y ait cette possibilité de se rencontrer. Oui, ça change la relation thérapeutique, mais ça, moi, c'est une expérience que je veux faire, qui paraît intéressante. Voilà. Après, il y a la question, par contre, qui est plus compliquée du secret médical. Alors, quand j'ai enregistré ce patient, je l'ai dit, je l'ai avoué, mais j'étais... c'est la seule fois où j'ai fait ça, mais je pense que j'étais un peu en panique, quoi. Donc c'était pas du tout une stratégie de recherche, parce que j'ai pas du tout cette idée d'enregistrer les gens à leur insu. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est enregistré, c'est tellement intéressant qu'on a envie de le retranscrire.
J'avais le matériel sous la main.
Et puis vu le patient, je me sentais pas, je me sentais pas de lui dire, écoutez, vous êtes pénible, je vais vous enregistrer. après il y a la question, et c'est là où je suis, je sais pas bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que. Dans Pensée sensible, j'ai parlé de situations de soins pour trois patients. Alors, il y en a deux qui sont décédés à l'apparition, donc ça a réglé un peu le problème. Mais il y en a une, la dame africaine, là, qui est toujours en vie. Et donc, elle, j'ai fait le choix de lui faire lire le texte. En fait, maintenant, il faut que je réfléchisse plus, mais à l'époque, je n'avais pas trop réfléchi le truc. Donc, si je ne peux pas publier ça, même si elle a une situation sociale qui fait que. Je pense qu'elle lit pas très bien et du coup elle n'allait pas le lire, mais bon, je me dis il faut que je lui fasse lire le texte, et du coup j'ai fait lire le texte. Donc elle a une réaction très positive, elle a été touchée, elle m'a dit ah mais vous pensez à moi, elle m'a dit. Donc, par rapport à tes questions, enfin je pense pour le coup ça lui a fait du bien. En même temps, du coup, ça change la relation thérapeutique. de fait. Et puis ce qui était intéressant, c'est pour ça que j'insiste sur les contrats d'édition maintenant. Elle m'a dit sonnement plusieurs fois, mais vous gagnez de l'argent sur le livre. Donc j'ai senti qu'il y avait un petit truc un peu craignos là. Bon, en tout cas, c'est des choses pareilles que c'était la première fois. Pensée sensible, j'ai écrit ces textes avant de penser au livre, du coup j'étais pas... Mais en tout cas, il y a une vraie question autour du secret médical et auquel j'ai toujours pas bien de réponse. Parler des gens sans leur dire, c'est impossible. Même quand on change, parce que je peux aussi changer beaucoup les histoires, mais je trouve que même quand on change beaucoup d'histoires, le cœur de l'histoire, elle est reconnaissable. Après, il y a l'idée de travailler avec les gens, donc de leur dire, votre situation m'intéresse, éventuellement on pourrait écrire un truc dessus. Je pense que ça peut être intéressant, j'ai jamais osé vraiment le faire. J'ai pensé avec cette dame pénible là, autour de son monoxyde de carbone, parce que c'est une dame qui, je trouve, qui analyse très bien les choses, et on pourrait presque faire un bouquin avec elle. J'ai pas passé le pas, parce que c'est un peu trop de questions. Et Geneviève Stein n'était pas ma patiente. Sa sœur l'est, par contre, Bernadette. Mais de fait, Bernadette, mon lien avec elle maintenant, c'est plus pareil, quoi. Donc je ne travaillerai plus avec Bernadette en tant que patiente, comme j'aurais travaillé avant. En même temps, avant, avec Bernadette, c'est une femme qui est très indépendante et fasse attention au secret médical, justement. Donc je vais m'arrêter là sur ce que je voulais dire. Mais en tout cas, peut-être que le monde qu'on crée maintenant est peut-être plus intéressant que celui qu'on avait avant. Je vais peut-être pas en dire plus. Mais voilà, pour moi, il y a un dispositif qui a expérimenté, qui me paraît original et qui est la motivation principale, quoi, d'être dans un point de vue original et puis de voir ce qui se passe. En essayant évidemment de ne pas mettre les gens en difficulté, c'est aussi la question de ces doutes de positionnement. Hein, c'est-à-dire, à la limite, moi je m'en débrouille, mais il y a les gens aussi que j'embarque là-dedans. Il ne faut pas que ça mette en difficulté. Bon, on arrête.
Moi j'ai une réaction à cette histoire de justement voilà, on a quelqu'un qui a, si j'ai bien compris, d'abord à son insu participé à l'enquête et qui s'inquiète de savoir si elle peut toucher de l'argent par rapport à ça. Mm-hmm. Et dire c'est craignos, pour moi, c'est... je dirais pas que c'est une erreur, mais en tout cas, ça pose la question de savoir... quels sont les... Justement, moi, je suis ici principalement parce que cette question des savoirs construits à plusieurs... Justement, le chercheur qui sort de sa posture d'expert, le surplomb, et qui commence à faire avec, elle pose un ensemble de questions qui, pour moi, ne sont pas résolues encore. Et en fait, c'est très, très à la mode dans les sciences sociales. J'en ai vu jusque dans les sciences de gestion. On faisait des trucs... et on invente des dispositifs, où on fait venir les gens avec nous, on fait des promenades. Et en fait, moi, la question que je me pose là-dedans, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? La première... Enfin, c'est pourquoi, pour qui, avec qui est-ce qu'on travaille? Ça, je trouve que c'est des questions et qu'il faut absolument poser. Mais surtout, quel est le... Qui a le dernier mot sur le savoir qu'on produit? Parce qu'en fait, on a des intérêts des fois contradictoires. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout pour évacuer toute notion d'objectivité de la production des savoirs, parce que je pense qu'il y a des savoirs objectivés qui nous aident à penser des situations éthiques, notamment, des fois. Et je me dis, en fait, si l'intérêt de quelqu'un à participer à ça, c'est de toucher de l'argent, peut-être qu'il faut en discuter. Et si l'intérêt de quelqu'un... Parce que bien sûr, moi, je vois des personnes... forcément des personnes qui sont déjà dans la production de savoir sur eux-mêmes et tout, que ça intéresse pour produire du savoir. Mais tout le monde n'a pas cet objectif-là dans la vie. Et je me pose toujours la question de... C'est sûr que quand j'étais étudiant, je proposais toujours aux gens d'envoyer ce que j'avais fait. Alors des fois, ça a calé une table. Des fois, les gens se sont reconnus dedans, étaient contents. Mais en fait, j'avais rien d'autre à leur proposer parce que j'étais étudiante. Moi, aujourd'hui, j'arrive, je travaille... Je suis assez ancrée syndicalisme bien gauchiste, voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, je travaille avec la CGT et je n'arrive pas à me dire que j'y vais, je récupère et puis voilà. Et eux, ils sont un peu dans cette posture-là, en fait. Ils n'ont pas besoin de moi. Et je trouve que c'est un peu... Il y a cette... Moi, j'ai... Enfin, comment dire...
j'ai pas envie de ne faire que prendre. Eux, ils n'ont pas forcément envie de... Enfin, voilà, c'est complètement brouillon parce que je réagis complètement à chaud. Mais pour moi, c'est une question qui se pose vraiment. La co-construction des savoirs, l'ouverture à l'autre, à l'altérité, elle pose aussi la question politique, en fait, de qui j'ai en face de moi, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer comme rapport social et humain dans cette relation-là. Et en fait, la recherche, c'est pas juste une activité de recherche, c'est une activité humaine qui s'insère dans la société et qui doit répondre aussi de ses actes, quoi. Je m'arrête là parce que je vais tout fait, mais...
quand je dis que c'est craignos, je rejoins tout à fait ce que tu dis. La question d'argent est un peu anecdotique. Enfin, j'entends ce que tu veux dire, hein, qu'à un moment, la rémunération des informateurs, c'est une question. Mais c'est craignos au niveau... Enfin, c'est juste que je me suis dit, mais il ne faut plus jamais faire ça. C'est-à-dire que... à aucun moment, tu peux avoir... Tu peux produire un écrit à l'insu des gens et l'utiliser après. Enfin, en tout cas, au niveau éthique, alors peut-être qu'on... Enfin, après, à aucun moment, il n'y a pas de règle morale... C'est pas une question de morale, en tout cas je sens bien que c'est une impasse définitive et que je suis pas à l'aise avec ce texte et que ça m'a juste montré qu'il fallait pas faire comme ça. Bon, même si encore une fois ça s'est un peu construit un peu au fil du temps, tu vois, mais ce qui n'était pas une bonne chose, après il faut réfléchir à ce qu'on fait. Après du coup, après ta question c'est une vraie question et je suis d'accord avec ce que tu dis. Après moi de mon côté il y a encore un truc qui rajoute, c'est le côté que je suis médecin et qu'il y a le secret médical qui met une couche en plus. Mais après, je me dis, peut-être que, parce que tu parles de politique, et donc avec nos cafés, on n'en a pas parlé, mais il y a toute une dimension politique sur la politique de soins, puis on essaie de travailler là-dessus, et sur qu'est-ce que c'est qu'une politique de soins. Et du coup, ce projet politique, c'est quelque chose qui doit se vivre là aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et le dire, le fait, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise dans dire, j'ouvre un espace. Alors, j'allais dire chacun est libre d'y venir, mais est-ce que les gens sont libres? Effectivement, mon patient il vient là, est-ce qu'il est complètement libre? Il connaît nos cafés par mon cabinet. Après on peut quand même penser que les gens, in fine, à son moment sont libres de venir ou pas. Mais je ne leur propose pas de venir et à un moment on va se retrouver dans cet espace. Du coup, c'est très différent d'écrire sur quelqu'un à son insu. Et dans cet espace, on est non pas à essayer de l'idée de l'observateur et l'observer de l'espace, l'idée c'est que les positions se trouvent, c'est-à-dire moi pour le coup je m'intéresse à moi, moi je m'intéresse beaucoup à moi et le jour de ma thèse, alors ça faisait dresser les cheveux sur la tête de ma directrice de recherche, je me dis mais la première source de données pour mon travail c'est moi-même. Du coup, si tu veux, il y a cette notion aussi quand on se retrouve là, très honnêtement, l'idée c'est de comprendre les interactions, ce qui se passe et ce qui se dit, et pas. C'est pas si c'est de la co-construction ou quoi que ce soit, mais il y a une sorte d'égalité qui se crée. Et que le matériau, c'est pour ça que j'aime bien ces comptes rendus en audio, c'est que le matériau c'est ça, et peut-être que ça ne sera pas autre chose après. Parce que le problème, c'est qu'on a. Alors après, c'est des gros mots qui tout de suite plombent un peu les choses, mais il y a les questions de la domination et dans le rapport médecin-malade, en fait. C'est-à-dire que quand même, alors on a beau s'en défendre, je trouve que le rapport médecin-malade est. T'as quand même ça, quoi. T'as quand même ça. Un truc descendant. Et alors même si on s'en défend, il y a quand même quelque chose qui est presque. Qui est très profond. Et moi, j'ai l'impression que le dispositif là me contraint à changer de position, quoi. Et il y a ça aussi au niveau politique, tu vois, de créer un espace d'égalité. Parce que franchement, j'ai des patients qui sont mes professeurs, et c'est pas anecdotique de le dire. Enfin, Maurice Merleau-Ponty, j'en parlais avec les étudiants, visible et invisible, c'est un patient qui m'a dit mais lisez ça. Tu vois, t'as tout un enseignement. Enfin, les gens, ils contribuent pour le coup au projet de l'éco-café. Et ce bouquin qui m'a beaucoup amené, en fait, c'est un patient philosophe qui m'a dit. Il a regardé les bouquins, il m'a dit vous n'avez pas lu Visible et Invisible, vous devriez le lire.
Je me demandais, peut-être dans l'idée de ce qu'on essayait de soulever avec Gabriel sur l'idée qu'il y a autant de terrain que de méthode et vice-versa, il y a autant de savoir que de rencontres. Et que l'idée de la co-construction de savoir, il y a peut-être que la question qui s'est posée pour toi, de savoir lorsque cette femme lui demande est-ce que je pourrais toucher de l'argent par rapport aux ventes, effectivement je rejoins ta proposition, c'est une question qui peut être posée, finalement. En soi, elle n'est pas vraiment problématique. Mmh. Elle a participé, elle a sa part et elle demande sa part, en fait, dans la
comme
production.
Comme les gens qui font des études pour les laboratoires, ils sont payés.
Absolument, voilà.
Pour expérimenter un médicament, il y a des gens qui sont payés par les laboratoires pour faire de la recherche.
Absolument.
Donc, pour faire de la recherche sur de nouveaux produits, il y a des gens qui sont volontaires pour ça, mais en même temps, ils sont rétribués. Alors qu'en revanche, en France, il y a des dons qui sont gratuits, le don du sang, le don de sperme. Dans certains pays, c'est payant. Ça, c'est pas pour faire de la recherche. Enfin, bon,
c'est oui, c'est cette forme de contribution à laquelle on participe et en retour, c'est une forme. Et de l'autre côté, le patient, tu enregistres la... Tiens, c'est parce que la situation faisait que, en fait, le recours à l'enregistrement était une ressource pour toi. Mais en soi, on peut la considérer comme problématique à bien des égards, mais c'est une perspective très normative, on appelle ça, c'est-à-dire que pour quelle raison on ne pourrait pas enregistrer une parole? S'il enregistre la parole, ça veut peut-être bien dire qu'il considère qu'elle compte, parce qu'il va en faire quelque chose après, tu vois. Enfin, donc on peut peut-être se reformuler les présupposés par rapport à ça, mais c'était une ressource pour toi dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a autant de situations que de possibilités de la résoudre, et donc là, tu as fait ce qui était juste pour toi dans cette situation. Après, quel sera le devenir de cette relation que tu vas bâtir avec lui? Quel sera le devenir de ces paroles enregistrées? Ça t'appartient, mais peut-être que tu peux réfléchir à la manière dont ça peut être une composition à deux, avec lui. Vous pouvez très bien réfléchir à la manière dont vous allez travailler ensemble à l'issue de cet enregistrement, tu vois. Donc, finalement, ou dans le travail social, je pense qu'il y a aussi ce type-là, c'est-à-dire qu'il y a autant de relations, et que cette relation-là, en fait, ça engage deux termes de cette relation, et que les deux termes, c'est une recomposition ensemble. Lorsque je te pose la question, est-ce que l'ethnocafé c'est une superposition, une alternance ou une composition, moi j'opterais plutôt pour l'idée de composition, c'est-à-dire du bleu et du jaune ça fait du vert, ça, je sais pas comment. Tu vois, c'est l'idée, c'est une autre couleur qui est produite, et c'est plus exactement Jean Fayet en tant que médecin, ni Jean Fayet en tant qu'anthropologue, et c'est plus le patient en tant que médecin, ni en tant qu'enquêté, c'est un truc qui se fait, une relation, et on sait pas vraiment ce que c'est, mais...
Mais dans le dispositif avec Geneviève, je pense, si je me souviens bien, c'est elle qui voulait qu'on l'enregistre. Elle avait envie que, ce qu'elle disait, ça soit retransmis.
Elle voulait faire partager.
Elle voulait faire vraiment partager. Je pense que
son expérience et sa joie.
Ouais. Ça doit être un peu peut-être différent d'autres patients, mais elle, enfin, il me semble.
Oui, alors déjà, c'était pas ma patiente, mais oui. Surtout après, je me suis dit, c'est chaud, quoi. Enfin, ouais. C'est chaud, je sais pas comment dire. Parce qu'en plus, elle est décédée rapidement, du coup, après, on peut plus discuter ensemble de qu'est-ce qu'on fait du texte et tout ça. Elle disait des choses très intimes aussi sur sa famille. Et en fait, c'est vrai qu'elle a demandé, c'est elle qui a demandé à ce que j'enregistre. C'était sa commande, en fait.
Oui, c'est ça. Hein. Et du coup, on a échangé pour qu'on enregistre.
Et c'est vrai qu'en fait, devant le fait accompli, il y a aussi cette notion, qui est pas facile. Est-ce que j'ai le droit de publier? Est-ce que j'ai le droit c'est un livre que je vends aussi. Après, on peut se mettre en danger juridiquement, quoi, tout simplement. Après, il y a ça aussi, c'est une réalité, quoi. Comment va réagir la famille? Je l'ai fait relire mais après moi je me pose des questions les questions on se les pose c'est toujours la même situation dans une enquête quoi. Bon là aussi il y avait l'histoire du nom, c'est-à-dire que est-ce qu'on garde son nom, est-ce qu'on change son nom, je lui ai posé la question par mail et j'ai jamais eu de réponse parce qu'elle est décédée et sans lui donner la réponse.
Et il y a sa sœur qui est là, qui fait le lien par rapport
sa sœur
à la
fait
famille,
le lien, mais c'est là aussi où c'est le rapport avec sa sœur, c'est je suis son médecin, et pour le coup, est-ce qu'elle ose dire les choses, est-ce que... C'est ça aussi qui
est compliqué. Ouais, après j'arrête de parler. Je faisais penser à sur cette question du nom, il y a une dame que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, et que je faisais un entretien avec elle, et puis je lui dis, ne vous inquiétez pas, je ne mettrai pas votre nom, je vais le changer. Elle m'a dit, et vous aussi, vous allez changer votre nom pour votre thèse. En fait, c'est une vraie question. Au final, si on décrit ce qui est juste, l'idée, c'est avec Gabriel, on est assez friand d'une romancière qui s'appelle Marielle Massé, qui écrit beaucoup de choses très belles. Et en fait, elle disait, l'idée, c'est pas de dire vrai, mais de dire juste. Et que peut-être à ce moment-là, en fait, bah, on peut être assez à l'aise, assez apaisé avec l'idée de transporter des paroles de personnes dans d'autres espaces, dans la mesure où en fait on a construit ensemble quelque chose qui nous semblait juste, tu vois. Et que peut-être que la question d'anonymiser le nom, elle se pose pas. Aussi, ça dépend évidemment, mais c'est une discussion aussi qui m'a d'être ouverte.
Aujourd'hui, en médecine, on a le gros problème des fameuses data, les données, puisque maintenant pratiquement tous les médecins sont informatisés. On écrit les choses dans nos dossiers qui doivent être normalement protégés. Hein, et on a des logiciels qui protègent, mais bon, c'est toujours un peu problématique cette histoire et pas de certitude. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ces données parce qu'elles ont une valeur marchande. Une valeur marchande, il faut le savoir. Hein, les Google et autres, ils aimeraient avoir tout ça pour s'en servir, pour. Dans des objectifs mercantiles carrément. Et donc ils utilisent aussi les iPhones des gens, les smartphones des gens, tout ce que les gens mettent sur leur santé dans leur smartphone, puisqu'aujourd'hui c'est la grande mode, hein. On enregistre son cœur, son nombre de pas, enfin on enregistre tout un tas de choses, la voix, on peut se servir de tout ça, donc, et là c'est à l'insu des gens. Donc, ça va loin. Le secret médical il est en danger quand même, même si on fait très attention. Et donc il y a des gens qui nous disent, ah ben moi je veux pas que vous écriviez ça dans le dossier, d'accord, on ne met pas, mais ça va pouvoir être contre-productif pour la personne, parce que si c'est pas dans son dossier qu'un autre médecin ne le sait pas, ça pourrait se retourner contre elle, contre son intérêt en matière de santé. Puis moi, ce que je pensais par rapport aux médecins, excusez-moi de repartir sur la médecine, c'est quand même mon dada. Donc moi, j'ai commencé par faire de la réanimation et voilà, des urgences. D'ailleurs, j'aurais voulu être urgentiste au départ, et puis après, j'ai changé d'idée, et j'aime beaucoup la médecine générale. Mais quand on est dans l'urgence, la place du patient, elle est réduite, parce qu'on a un devoir de moyens, pas forcément de résultats. Malheureusement, on a des gens qui meurent dans nos bras, hein, et c'est très dur. On est dans l'échec. Hein. L'autre jour, Marie-Hélène Boucan disait les médecins, ils sont dans l'objectif de succès. C'est faux. Je pense que la mort, les conséquences graves, c'est quand même des choses qu'on vit fréquemment. Et il faut l'accepter. C'est pas facile pour tous les médecins, je pense. Hein. Donc, la place du patient, elle est très réduite. Et inversement, quand on est en médecine générale, on n'est pas du tout dans ce cas de figure où il n'y a pas l'urgence, il n'y a pas le risque vital. On peut avoir une autre approche, je pense. Il y a aussi le chirurgien. Moi, j'ai fait des aides opératoires. Quand on est dans la chirurgie, le patient, il est anesthésié. Il faut qu'on soit le meilleur possible avec avec des choses bien carrées. C'est des situations où il faut s'oublier soi-même. Tandis qu'en en médecine générale, effectivement, notre personnalité, même si elle est là quand même quand on est dans le bloc ou quand on est dans l'urgence en train de faire un massage, c'est quand même nous qui sommes là. Mais en médecine générale, les motifs ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir de la gravité aussi, hein, ça arrive, mais on a plus de place pour soi-même, pour s'exprimer soi-même. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, je pense que tu vois. Il y a un espace.
C'est différent.
Un espace de rencontre qui n'est pas dans le soin technique, où à un moment il y a besoin de technicité, ça c'est sûr qu'à un moment, même à quelqu'un qui a une hémorragie cérébrale, il faut.
Ah oui.
Pas peine de faire un entretien anthropologique, il faut agir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'on parle de trop de la médecine en général, et je trouve qu'aujourd'hui elle a tellement de facettes. Enfin, ça c'est.
On parle de trop de la médecine, tu veux dire ?
On parle de la médecine en général, ah oui, et quand on dit le médecin, on voit plutôt le médecin dans son cabinet, mais il n'y a pas que ça comme médecin. Hein. Il y a des médecins qui sont. Qui regardent que des tissus au microscope, qui sont les anatomopathologistes. Et pourtant, leur importance est cruciale, parce que s'ils se trompent, il ne faut pas qu'ils se trompent pour faire le diagnostic du cancer, etc. Mmh. Donc, en fait, là aussi, il y a la multiplicité de la médecine, des champs de la médecine qui...
Mais c'est ça qu'à un moment, tu as un impératif de soigner qui, quelque part, qui dépasse le patient. Enfin, c'est-à-dire, notamment, c'est évident pour les patients qu'on considère non... quel est le terme, non capable, des fois tu dois soigner les gens contre leur gré sous peine d'être condamné, quoi.
Oui.
Et donc à un moment, bah, le soin technique va s'imposer et c'est toute la question. À partir du moment, enfin, la discussion, elle a de la place pour quoi et à quel moment la personne est incapable moi j'ai un patient là, qui était à domicile avec une cirrhose grave, en fait, il avait l'air de raisonner, quoi. Il voulait pas se faire soigner, il voulait pas aller à l'hôpital.
Ça, c'est fréquent.
C'est moi, je suis assez cool là-dessus. Le mec, il ne veut pas me faire soigner. Je lui dis, ok, vous êtes sûr que vous voulez pas vous faire soigner? Vous allez mourir? Ok. Bon, moi, je suis cool, mais le mec, il a fini en réa un jour parce que son ménagère l'a trouvé à moitié mort. Il est en réa. Bon, je suis cool, mais en même temps, est-ce que j'ai raison d'être cool, quoi? Parce que est-ce que le mec voulait vraiment mourir? Est-ce qu'il avait bien compris? Donc, moi, j'ai discuté, presque entretien anthropologique, mais je me suis dit, je vais écouter sa parole, tout ça. Et du coup, à un moment, le problème, c'est que le soin technique, il va devenir. C'est un peu la complexité de la médecine, c'est que il n'y a pas que l'espace de parole, de compréhension. Il y a un impératif à soigner parfois, donc il est assez rare finalement en médecine générale, mais contrairement à un service de réanimation. Mais...
Je voulais reprendre sur ce point et d'autres choses qui ont été dites, mais du coup ramener sur en fait la méthodologie mouvementée, comme tu l'appelles. Parce que du coup, la question de coproduction des savoirs, question du nom qui est aussi. Enfin, vous êtes en plein confronté là-dedans, c'est aussi la question de l'auteur en fait. Donc, du coup, enfin, c'est plus que mettre son nom ou anonymiser, c'est reconnaître aussi des savoirs et tout ça. Et du coup, la question de la capacité et de l'incapacité aussi, parce que dans la méthodologie mouvementée telle que tu la présentes, il y a cette idée en tout. De participer à un mouvement, en fait, de mettre en mouvement des personnes, d'un espace aussi, qui serait cet espace, mais tu parles aussi beaucoup du quartier, en faisant des analogies, on irait à l'ethnocafé comme on va chez un autre commerçant ou dans un autre service. Et du coup, il y a cette idée de mettre en mouvement les personnes et le quartier qui est quelque chose qui soit... comme de l'enquête, de la réflexion partagée, une communauté d'enquêteurs, une communauté de sachants. Mais du coup, en fait, cette question-là, elle vient à partir de quel moment, en fait, on peut engager une méthodologie mouvementée dans ce sens-là. En fait, non, je le reformule. En quoi on a besoin que les personnes aient conscience de participer à ce mouvement-là pour mettre en mouvement ? Enfin, tu vois, par rapport à tout ce qui est discuté là, je trouve qu'il y a une tension pour moi entre l'idée de l'ethnocafé, de cette idée-là, en fait, de mettre en mouvement, et en même temps, tout un ensemble de situations où les personnes ne pensent pas être dans ce dispositif-là. Et en même temps, elles sont quand même dans ce dispositif-là, parce que ce qu'on disait, c'est que t'es plein de choses à la fois, et ce lieu, c'est plein de choses à la fois, en fait. Et du coup, en fait, comment on travaille cette tension pour arriver à cette finalité? Parce que du coup, il y a quand même une finalité sur la question du soin, etc. Du coup, comment on travaille ça? Je suis pas très clair. Mais...
Je vois, mais... c'est vrai que c'est la question un peu centrale qui n'est pas évidente. J'ai l'impression, alors moi, je suis peut-être imprégné par Socrate aussi, j'aime bien Socrate. Je trouve que cette question Bon, Socrate, il voyait pour venir à la politique, il voyait une perspective citoyenne de mettre les gens, d'offrir aux gens de mettre la pensée en mouvement, tu vois. Enfin, après, la question est de la production au final, c'est pour ça que moi je suis pas très attaché en fait à la production finale. On fait des livres, il y a des comptes rendus, mais la finalité c'était pas ça. La finalité c'est peut-être justement de mettre la pensée en mouvement. Alors pas que les gens pensent pas, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais moi j'aime bien prendre l'analogie avec le cinéma, les gens ils vont au cinéma pour se donner à rêver, on vient dans le projet pour se donner à penser. Alors, les gens viennent pour se donner à penser, puis probablement qu'il y a des gens qui sont pris dans le mouvement et qui pensent sans avoir pensé quoi, tu vois. À mon médecin il fait de l'anthropologie, hein, bizarre. Bon, sur le site, ben, ça les met à penser alors qu'ils n'avaient pas forcément fait le choix de venir penser. Mais après, il y a aussi un positionnement politique et de dire, ben, peut-être c'est bon. Parce qu'après aussi, il y a cette question de la militance, quoi, de l'engagement politique. Et moi, je milite aussi. On n'aborde pas beaucoup la question, mais je pense que les frontières sont aussi ténues. On pourrait parler de ça, hein, la frontière entre le travail de recherche et l'engagement politique. Tu te définissais comme gaucho.
J'essaie de faire un grand trait portrait.
Ouais, mais moi c'est pareil, c'est-à-dire moi aussi j'ai cette notion de militance gaucho et tout ça. Et moi je veux pouvoir le dire quoi. C'est-à-dire et que je pense que c'est lié de la même façon qu'un médecin il peut produire la connaissance avec ses patients dans un. Je pense que la militance politique elle amène, enfin c'est une pratique qui amène à produire la connaissance aussi sur les choses. J'ai l'impression que le projet est aussi ce projet politique là quoi, de dire qui était l'idée de Socrate, j'ai compris ce qu'il disait, c'est que à un moment mettre en route la pensée des gens, à la fois la mettre en route puis à la fois arrêter des pensées automatiques, ça fait des meilleurs citoyens. Alors voilà, on va dans autre chose hein, mais parce qu'après on s'était interrogé puis enfin il y a la question de pourquoi on fait de la recherche, pourquoi tout ça en fait, pourquoi on fait de la recherche en tant que chercheur, pourquoi on s'engage dans la recherche, pourquoi je pense qu'il y a une finalité, enfin je pense que
c'est quand même pour s'améliorer, non, pour avancer.
Ben, après chacun aurait sa réponse, mais il y a une finalité et je pense que en tout cas je sais que j'avais fait mon travail de thèse de médecine sur la question de pourquoi les étudiants rentrent en médecine. 90% des étudiants en première année rentrent en médecine pour faire de la médecine humanitaire. C'est-à-dire que les gens ils rentrent en médecine pour changer le monde. Et je pense que pour le coup, en sociologie et en anthropologie, il y a ça aussi. Et on voit bien les anthropologues qui s'intéressent aux soins et à un moment, ils sont irrités par les médecins parce que les médecins ils soignent mal. Moi, je vais leur expliquer comment soigner. Moi, j'ai vu souvent ça, des gens se mettre en colère contre eux. Il y avait une professeure là, au congrès où je suis allé, qui a fait son intervention sur l'embolie pulmonaire en disant mais il faudrait quand même que les médecins retournent se former. Et elle a fait une comme ça. Donc on voit bien. Et puis après, elle m'a cassé mon truc en disant la flexibilité, c'est pas tout. J'avais envie de répondre, mais faites ce travail-là. Pourquoi vous dites qu'il faut que les médecins retournent se former? C'est qu'à un moment, il y a quand même. Ben, t'es anthropologue, c'est pas que pour produire la connaissance, t'as aussi ton intention profonde et. Peut-être que je me perds un peu, mais je ne sais pas si je réponds ta question de départ.
Qu'est-ce qu'elle voulait dire par les médecins doivent se former? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle voulait dire?
Ben, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, elle trouvait qu'ils étaient nuls dans la relation thérapeutique, dans la communication. Ah, et elle trouvait qu'ils étaient nuls, les médecins. Les anthropologues de la santé trouvent souvent les médecins nuls. Hein.
Ah,
mais
de toute façon.
Et non, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire pourquoi cet agacement. Après, on est agaçable, ça je le conçois, mais pourquoi on est agacé? Pourquoi elle est agacée? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je pense qu'elle était, elle aurait aimé que les médecins travaillent mieux, elle aurait aimé mieux qu'on prenne mieux soin de ces gens-là, des patients.
On n'est jamais très bon.
Ouais, peu importe, mais tu vois, c'est surtout quelle est la motivation de l'anthropologue. Et tout ça pour revenir à. Je me perds un peu, mais moi je reconnais que dans l'ethnocafé, il y a une ambition politique, ça c'est sûr. Il y a une ambition politique, ben peut-être sur une politique de soins, c'est-à-dire peut-être dans l'idée que si on se retrouve ensemble avec des patients, ben je vais mieux soigner et eux ils vont, je sais pas ce qu'ils vont mieux faire, mais ils vont pas mieux être soignés, mais ils vont peut-être aussi être mieux soigner la société, et que peut-être le fait de ces réflexions-là amène à oui quelque chose de politiquement intéressant, peut-être quelque chose qui manque dans le politique actuellement, où finalement des espaces comme ça de réflexion sur ce qu'on est, comment on prend soin des autres, sans objectif militant ou politique, enfin électoraliste ou quoi que ce soit, peut-être qu'il n'y en a pas tant, mais. Et moi j'aime bien cette idée de Socrate qui est de dire si vous. Socrate pour le coup il proposait pas grand chose, hein, son idée c'était justement d'arrêter les pensées ou de proposer aux gens de penser différemment, mais. Et j'aime bien cette idée que ce seul fait-là permet à mieux vivre ensemble, quoi, en fait. Du coup, le seul fait d'enclencher la pensée dans ce projet-là peut permettre de mieux prendre soin de l'autre. Et la différence, tout ce qui est intéressant dans le prendre soin et la politique, hein, c'est que la politique de soin, la politique, c'est prendre soin. C'est Aristote, je crois, qui disait que la politique, c'est pas l'organisation du vivre ensemble, ça c'est la vie sociale. La politique, c'est l'organisation du bien vivre ensemble. Et bien vivre ensemble et prendre soin, on est dans les choses proches, quoi. Et tout ça pour dire, voilà, je crois qu'il y a la finalité, elle est. Je sais plus quelle était la forme de ta question de départ, mais. Je sais plus la question, mais j'ai l'impression de donner la réponse. Je sais pas pourquoi vous faites de la recherche, les chercheurs, là. Toi, par rapport à ta militance, est-ce que tu fais un lien explicite ou est-ce que...
Non, mais je pense que, en fait, je ne suis pas une vraie militante en organisation parce que je suis assez nulle à ça. Donc en fait, moi justement, j'envisage pas la thèse autrement que comme un engagement politique. Mmh. C'est-à-dire que je suis là parce que j'ai quelque chose à défendre. Mmh. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne fais pas un tract de la CGT de 300 pages, enfin, c'est pas du tout le propos. Mais c'est bien de dire, en fait, je vais explorer ça parce que, à mon sens, il y a bien sûr qu'on n'entend pas politique au sens partisan, même si j'ai des affinités. Mais c'est bien la question de dire. J'y vais parce que là, je pense qu'il y a quelque chose à explorer qui est important, en fait. Et qui est important d'en parler, et puis d'en parler dans des termes qui ne sont pas forcément ceux du débat public actuellement. Alors là, je vais parler du sujet concrètement, mais la santé au travail, traditionnellement, bon, vous êtes médecin, vous connaissez peut-être un peu l'histoire de la médecine du travail, et bon, comment est-ce qu'elle se... Mais en gros, elle est partagée entre détenants d'une explication en général individualisante et donc qui a tendance à nier l'impact du travail sur la santé des gens, et de l'autre côté une version beaucoup plus CGT SFIO quoi, qui dit le patronat est responsable de la santé des travailleurs. Et en fait c'est deux tendances qu'on retrouve encore aujourd'hui, et finalement c'est des espèces de gros machins là, et chez les médecins, chez les inspecteurs du travail, tout le monde en fait, au sein des entreprises, on retrouve systématiquement ces deux types de positions. Et donc la question, c'est de savoir, bon bah évidemment, il y a des compétitions, donc à quoi ça ressemble tout ça, qu'est-ce qu'on en fait, et parce que l'idée, c'est de pouvoir le mettre au débat aussi. Alors je suis pas sûre que ma thèse sera lue par la France entière, hein, mais je suis même à peu près sûre du contraire. Mais l'idée, c'est de dire, bon bah en fait, c'est, et c'est là que là, je pense que ça rejoint la question de qu'est-ce que c'est que l'objectivité ou la subjectivité dans les sciences sociales ou ce genre de choses. Pour moi, il ne s'agit pas d'écrire le monde, de trouver la réponse à la question de l'univers, de la vie et du reste. Hein. C'est vraiment, pour moi, et là c'est peut-être très inspiré de la psychanalyse, c'est de créer du sens. Et c'est à ça qu'on sert. Enfin, en tout cas, ça me rassure de me dire ça. Mais c'est de donner du sens, et donc de créer du sens collectivement, à partir de ce qu'on retrouve sur le terrain, et donc de donner un sens qui soit partageable en fait entre nous ici, mais entre un médecin et son patient, et pour moi c'est ça la relation, c'est créer un espace où on peut se comprendre, mais se comprendre, c'est, on n'accédera jamais à, enfin je suis assez pessimiste sur ce genre de, moi sur l'objectivité ou sur les possibilités de la science, je pense que ça peut nous apporter plein de trucs, mais qu'il faut pas se prendre pour Dieu quoi. Je crois que je suis en train de me perdre, mais voilà, je pense que c'est hyper important pour moi, vraiment, créer de la connaissance, c'est bien de la création, et c'est pas du coup le travail de recherche, c'est un travail de fabrication quoi, pour moi, plus que de dévoilement d'une réalité qui me paraît en fait difficile à attraper dans ce sens. C'est assez clair.
Oui, très clair. C'est intéressant parce que moi je le vois plus comme une compréhension, et du coup c'est, enfin, je pense qu'on peut se retrouver facilement, mais la création et la compréhension, du coup, quels sont les ponts, mais après j'entends bien, et puis c'est, je pense que c'est ce que dit Arendt aussi, c'est que plutôt que de comprendre le monde, en fait, on peut le créer. Enfin, peut-être que ta voix est plus juste, que finalement on ne fait que créer le monde. Au lieu de le comprendre, enfin. Après, je suis trop filus, comme dirait ma prof de ma directrice de thèse, elle me disait que j'ai été trop filus. Au début, je ne comprenais pas, j'avais compris phallus. Bon, il reste 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Kia, je te sens que.
Comment ?
Quand tu fais comme ça, c'est que t'as envie de dire un truc.
Non, là, pour le coup, c'est que j'ai froid. mais non, oui, moi, je trouve ça intéressant. Puis de s'interroger sur la place de l'autre, dans le sens où, enfin, pour moi, en tout cas, on est sans cesse, et quand on produit, par exemple, je pensais à la littérature, aux œuvres d'art, des choses comme ça, on est sans cesse en train de s'approprier des expériences, en fait, et parfois du vécu de l'autre. Enfin, on est obligé de travailler à partir d'une matière humaine, émotionnelle, de notre propre histoire, et donc voilà, je me posais vraiment la question de la différence, du coup, à part le secret médical, entre ce qu'on peut produire en termes d'anthropologie ou de sociologie par rapport à cette réappropriation des histoires des autres, enfin, du vécu de l'autre, et comment c'est transformé, et voilà. Et par rapport à ce qu'on fait dans d'autres domaines, par exemple en littérature, on se pose pas vraiment la question, en fait. L'anonymat suffit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a des dizaines d'écrivains qui ont écrit leur biographie, qui ont écrit sur eux-mêmes. Enfin, tu vois, on est... Donc, pour moi, c'est quoi la frontière, la différence entre... tu vois, enfin, on est obligé de faire à partir de là de matière vivante à un moment donné, donc non, c'est clair ce que je dis.
Mais il y a eu des procès entre écrivains qui ont écrit des romans parce que il y a des auteurs qui ont pris qui ont utilisé la vie d'autres gens pour faire des bouquins. Et les gens se sont reconnus, etc. Il y a eu des procès là-dessus.
Ouais. Mais il y en a toujours. Ouais.
C'est fou, quoi.
Après, voilà, je pense qu'il y aura toujours des procès. Ouais. Genre, mais il y a aussi beaucoup, des milliers, je pense, de livres qui ont été. On est obligé de travailler à partir de ça.
Oui, bien sûr. On ne travaille pas à partir de
ça. Mais c'est ça, à un moment donné.
Ouais, tu veux dire que sinon c'est plus rien.
Non, mais c'est ça, je veux dire, sinon c'est un peu le vide, et quel que soit un peu ce qu'on fait, enfin, en tout cas dans l'art, dans la littérature, dans tout ça, enfin, moi j'ai l'impression qu'on se nourrit en permanence de ces interactions-là. Et...
C'est presque le domaine public quelque part.
Et quelque part,
la vie des autres, c'est presque le domaine public.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une. Enfin, du moins, peut-être qu'il y a un anonymat posé, sans dire le nom. Ou voilà, mais à partir de ce moment-là, moi je pense que c'est mieux de demander un consentement quand même. Enfin, je suis comme, voilà. Mais après, c'est une réappropriation d'une matière vécue. Ça circule de partout, tout le temps, en permanence. Et, tu vois, et tout ça, c'est des infos, c'est de la nourriture, on absorbe, après on le retranscrit. Tu vois ce que je veux dire, on traduit avec nous ce qu'on est aussi, et c'est ça qui fait que finalement on va jamais retraduire le vécu de l'autre quelque part, si tu veux, enfin pour moi, c'est-à-dire que si quelqu'un veut écrire son histoire, il écrit son histoire, et là ok, là ça colle, tu vois, à partir du moment où toi, tu vas, c'est comme si tu t'inspires de quelque chose en fait, puis tu le transformes, voilà, t'en fais quelque chose, tu le... C'est clair,
c'est jamais l'autre complètement, quoi.
C'est ça, c'est
le phénomène, c'est comment l'autre t'apparaît à toi.
C'est quand ça transite par toi, est-ce qu'on peut dire encore que ça appartient à l'autre complètement, tu vois. Moi, c'est ça, la question de fond que ce débat pose, c'est quelque chose comme ça, en fait. Étant donné qu'on est en train de tout transformer en permanence, et à partir du moment où ça transite par toi, qu'est-ce qui est de l'ordre de ça appartient à l'autre ou à toi-même, à partir du moment où il n'y a peut-être pas de divulgation du nom, de choses comme ça. Et pour moi, c'est une vraie question de fond que là, du coup, le débat pour moi pose.
C'est très juste, Pierre. Et c'est presque ce que si je comprends ce que tu as essayé de dire en arrière-plan, c'est comme si les expériences étaient un bien commun.
Bien commun dans le sens. Les expériences de chacun.
Ouais. Dans la mesure où on peut en parler, on peut les transporter dans notre arène.
C'est ça.
On peut les faire circuler, on peut construire des expériences de savoir.
Et on co-crée du coup.
L'idée que finalement, ce qui pose indéniablement des problèmes pour un médecin d'ordre éthique, par exemple, de se créer, etc., mais où il y a plein de ramifications. Mais peut-être en le pensant comme une expérience comme ça, c'est un truc comme ça, mais de penser des expériences comme bien commun, pose la question du politique de fait. Et invite à enquêter, à réfléchir à qu'est-ce que ça présuppose, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre manière de vivre ensemble.
C'est vrai que le secret médical est peut-être un cas particulier par rapport à ça, parce que évidemment c'est un espace où c'est officiellement un espace de confidence normalement fermé et clos, et voilà, mais
sauf qu'elle déborde aussi.
Ça déborde de part, mais tout, enfin pour moi tout déborde un peu de part. Mais oui, c'est un petit peu ça, ouais. Puis après, du coup, ça rejoint, tu vois, ce que tu dis aussi quand on sait élargir la vision, c'est-à-dire tu vois, dans le sens où c'est les interactions qui vont créer le monde, comme la reine. Du coup, c'est vrai que l'expérience, c'est une question. Après, j'ai pas, enfin, je suis pas en train de
poser
une réponse,
sous la forme d'interrogation.
Non, mais moi j'ai quand même un peu l'impression que oui, on co-crée, etc., à partir du moment où on retranscrit nous-mêmes l'expérience même d'autrui, etc., dans la rencontre, il y a quelque chose de commun qui s'est créé, qu'on peut exploiter. Je trouve ça très chouette.
Mais je pense aussi que, bah, voilà, justement, on voit qu'il y a déjà des cas particuliers avec le secret médical, etc. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi? Parce qu'en fait, on ne fait pas ça tout seul. Et donc, si on ne fait pas ça tout seul, il y a toujours un autre auquel on n'aura pas accès. Mmh. Et donc, il y a bien quelque chose à mettre en commun pour parler, enfin, finalement cadrer toujours un peu ce qui va être fait de cette mise en commun, de cette expérience. Et en fait, il y a des contrats dans les entretiens. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu disais, là, en fait, j'ai rompu un contrat implicite, celui de la relation thérapeutique, mais celui de la relation de l'anthropologue à son enquêté aussi, parce que normalement, on demande tout le temps ils veulent bien qu'on les enregistre, ou je sais pas quoi. Et en fait, on a une espèce de contrat implicite en sociaux dans les entretiens que j'ai toujours pas défini. Je comprends pas ce que les gens acceptent, enfin, je comprends pas pourquoi les gens acceptent de me parler, mais ils le font, et des fois, ils disent merci, et je suis contente, et voilà, mais... Mais en fait, il y a un contrat sur ces choses-là. On n'est pas... Le commun ne devient pas commun et à tout le monde comme ça, comme par magie. Et du coup, c'est quand même des choses qui posent des questions éthiques et du coup, bah oui, toujours politiques.
Peut-être, je te rejoins, Julien, mais peut-être que plutôt que parler de contrat, qui serait une forme de transaction marchande un peu, est-ce que ça ne pourrait pas être le terme de médiation? C'est-à-dire, quelles sont les médiations qui permettent ce type de...
Oui,
le contrat est une médiation, mais parmi d'autres, mais tu vois, l'ethnocafé est une médiation, peut-être parmi d'autres. La table une table est une médiation qui permet de s'asseoir autour.
Et l'œuvre d'art en serait aussi exprimée.
Tu vois ?
Je suis pas si sûre parce que je trouve que la notion de contrat renvoie au fait qu'il y a des attentes qui sont certes tacites, mais qui sont en fait très communément partagées. On va chez le médecin, on s'attend pas à ce qu'il raconte tout un tas de trucs sur nous, sur un blog avec notre nom, notre adresse. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a des choses qu'on peut juger. Par exemple, quand on parle de la question des violences policières, pourquoi c'est aussi scandaleux des gens violents qui tabassent, il y en a plein. De la police, c'est insupportable. Bon, c'est, en plus, c'est inscrit dans la loi, quoi. Ils ne sont pas censés tabasser au hasard. Mais je pense qu'il y a bien une question de... Alors peut-être que la question de contrat n'est pas hyper à droite,
oui, pas...
mais moi je trouve que médiation, c'est trop vague. Tu sais bien qu'il y a une question d'attente.
Mais comme le médecin, lorsque le patient il vient pas pour avoir une expertise, il vient pour avoir des compléments de ce que tu disais. C'est du deux côtés de la relation, c'est-à-dire que...
Oui, bien sûr, j'en ai plus qu'un, mais ça va dans les deux
sens. C'est du côté du patient et du médecin, c'est-à-dire que le médecin aussi, je projette des attentes de ses patients.
Mais c'est des attentes qui sont appuyées sur des conventions quand même.
Bien sûr.
Juste pour illustrer de façon anecdotique, il y a une patiente qui vient avec sa mère, avec son enfant. Je soigne son enfant, elle était sur son téléphone comme ça. Du coup, je soigne son enfant, puis à un moment, elle lève la tête, elle dit « C'est vous, Lucas M ?» Et en fait, Lucas M, j'écris souvent les textes sous un pseudo Lucas M. Et en fait, elle était en train de lire l'histoire d'un autre patient en consultation. Et tu vois, je me suis dit « Oh, ça fait longtemps, puis je dis « Putain, le bazar !» Enfin, c'était une des histoires d'en pensée sensible. Voilà, à l'époque, c'était un peu flou, mais... Enfin, et là, ça... Enfin, effectivement, je me suis dit, mais... Enfin, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Et moi, comment je pense le truc, quoi? Elle vient là, dans le secret médical, elle est en train de lire une histoire de notre patient, soit... Enfin, bref.
Peut-être que, juste, médiation, c'est... je précise. On a toujours un besoin de préciser. Repréciser, ça fait partie. Parce que... Il y a... Peut-être que c'est un... Il y a Confucius, j'ai lu ça tout à l'heure ce matin en fait. Il disait le premier acte politique c'est de bien parler. Alors peut-être que c'est aussi ça les conquêtes. Et peut-être que médiation entendue comme toutes les techniques de représentation et de communication. Et du coup, ça peut, c'est dans ce sens-là que ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi peut-être un livre, ça peut être aussi une table, ça peut être tout ce qui instaure les conditions d'une interaction, d'une transaction. Voilà. Donc peut-être en parlant de médiation ça ouvre peut-être le champ. D'accord. Mais c'est ma manière de
voilà. Non, en tout cas je pense, enfin juste pour prolonger parce que je voulais aussi parler de ça, mais en fait c'est, pour moi ça rejoint la question que je te posais sur la méthodologie mouvementée. En fait c'est cette question des médiations qui vont mettre en mouvement, et je trouvais intéressant de parler du texte littéraire, du roman, de la poésie, mais aussi de l'ouvrage sociologique ou de l'article sociologique. Et en fait, toutes ces formes et ces formats, donc là pour le moment écrit, mais il y en a d'autres, qui en fait vont contribuer à mettre en mouvement, en fait, qui vont lier en fait les personnes entre elles. Du coup, c'est un peu ça moi qui me questionne sur l'ethnocafé, mais en général dans ma pratique de sociologue en fait. Moi, ça a été de travailler avec la photographie, avec des expositions pour fait, qu'est-ce qui met en mouvement, quelles sont les formes et les formats qui vont permettre de mettre en mouvement, en fait, de rendre compte de d'expériences qu'on a eues ou d'expériences des autres, et comment en fait on les traduit pour les rendre accessibles et les faire circuler, en fait. Et après, qu'importe les circulations et que ça parte dans tous les sens, ça c'est pas très... Mais en tout cas, ce que tu disais, enfin moi ça me fait beaucoup écho à ça, et je trouve ça... Enfin, je trouve ça hyper important, quoi, du coup.
Après, du coup, je sentais qu'il fallait que je m'arrête là pour disposer, du coup j'ai pas continué, mais... dans l'histoire de la méthodologie mouvementée, il y avait cette notion aussi de dire que finalement le chercheur, est-ce qu'il est le chercheur professionnel, enfin le sociologue, est-ce que son rôle c'est pas justement d'être non pas d'être de produire un produit fini de recherche, mais d'être l'animateur de, ouais, le catalyseur de ce mouvement. Finalement, est-ce que le travail du professionnel de monsieur Léger ou l'anthropologiste, c'est pas de mettre en route le mouvement de la pensée et que, est-ce que c'est pas sa responsabilité, en fait, est-ce que son rôle c'est de produire un truc et de passer à la radio en disant le monde est comme ça, ou est-ce qu'il peut pas être responsable d'un mouvement de recherche qui crée
alors peut-être pas le mettre en route mais l'accompagner, en fait, s'y prendre pas,
parce que du coup il existe comme on fait là, quoi. Enfin, s'il y avait pas eu d'universitaire, il n'y aurait pas eu cette rencontre. Bon, s'il n'y avait pas eu de non-universitaire, il n'aurait peut-être pas eu non plus. Mais quand même, on sent que tout ça est initié quand même par le taf d'être sociologue et anthropologue. Mais de fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que là, ben, on voit bien que personne gagne la partie. Enfin, pour parler un peu, c'est-à-dire que ben, qui peut dire la réalité de ce qu'on vient de parler, ben, enfin, personne, mais si ce n'est de reprendre le déroulé de ce qu'on s'est dit. Et en même temps, on sent qu'il y a quand même une capacité dans ce dispositif, je trouve, à parler du vrai, du rêve, de la réalité, quoi. Enfin, je trouve que...
Peut-être de prolonger le plus longtemps possible en détermination, en fait.
Et d'aller peut-être un peu plus loin qu'on ne va dans d'autres dispositifs, ou en tout cas différemment. Plus loin, c'est pour me faire plaisir, mais en tout cas dans une façon singulière, quoi. Original au sens de singulier, et du coup un nouveau point de vue. Bon, ça va être l'heure. Bon, après, moi c'est vrai que l'ethnocafé, surtout à l'issue de cette rencontre, j'ai l'impression que c'est un truc très centré sur ma personne, mais peut-être que c'est ça. Après, moi, ça m'interroge, du coup, parce que, l'idée, c'est quand même de centrer, que le projet se décentre un peu de moi et de proposer, enfin, je me mets jusqu'à l'été pour essayer de, bon, je pense qu'il faut que ça vienne de moi, mais de proposer une organisation plus collective. Je me pose la question, finalement, est-ce que cet endroit peut être autre chose que quelque chose de centré sur moi?
Il n'est pas trop là, t'es un peu direct.
Non, mais je le vis pas comme une critique, en fait. Hein, mais,
c'était le thème de la journée, ouais, de la matière.
Comme c'est mon cabinet, tu vois. Mais bon, en même temps, je pense que ça n'empêche pas de faire un dispositif conduit à plusieurs. Enfin, en tout cas, c'est plus intéressant pour moi. Je me dis que c'est pas intéressant pour d'autres. Mais...
Oui, et puis là, ça permet de lancer sur cette question un peu collective autour de la méthodologie, en tout cas d'y réfléchir, mais après de revenir sur ces médiations, ces formes et ces formats, d'en trouver d'autres justement pour poursuivre l'échange.
Et puis des expériences de terrain, le travail social, l'écriture,
comme toi, t'as
précieux. Ils sont extrêmement précieux, en fait. C'est bien à partir de ça aussi qu'il faut.
Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup, très sincèrement à tout le monde. C'était un beau moment.
Merci.
Du coup, est-ce que vous êtes...
T'as enregistré?